À Delphine, lundi 1er février 1915. Quelle bizarre existence on mène, mangeant quand on peut, dormant le jour, veillant la nuit. Il n'est pas jusqu'au besoin de pisser et de chier, qui ne doivent se régler militairement, car de jour, dans la tranchée, impossible de mettre le nez dehors et moins encore le reste. Il faut prendre la nuit ses précautions et ne pas même attendre le petit jour si l'on ne veut pas s'exposer à avoir le derrière torché par les shrapnels. Le repos n'est guère du repos. Tout l'avantage qu'on a, c'est qu'on est loin des obus et qu'on a une grange pour dormir la nuit. Le pays n'est toujours guère hospitalier. Impossible d'y trouver ni vin ni alcool. La vente en a été interdite et tout ce qu'on peut avoir, c'est du mauvais jus et quelques provisions de qualité médiocre telles que conserves vendues très cher. Le moindre litre de vin ferait mieux notre affaire. Ah, bon Dieu, quel sacré métier! Il faut voir le soir, quand on revient, les caravanes de cuisiniers traînant leurs petites voitures, bâties comme elles peuvent, sur des roues de charrues, sur lesquelles ils ont ajusté de grandes caisses où ils fourrent leur matériel roulant, chaudrons et marmites ramassés un peu partout, au petit bonheur du cantonnement, dans les cuisines des maisons bombardées. À la même, mardi 2 février 1915. Je t'ai écrit hier, mais j'ai été obligé d'écourter ma lettre, car nous partions au travail. Tout le jour, dans un grand bois, nos poilus ont travaillé à des fascines et à des gabions. Le temps était meilleur que nous ne l'avions espéré. La neige a cessé de tomber, il a fait presque tiède, et le dégel a rendu les chemins extrêmement boueux. Aujourd'hui, le soleil s'est montré, et il a fait un temps superbe. Je me suis débarbouillé, ce qui ne m'était plus arrivé depuis 5 jours, et j'ai passé une visite minutieuse de mes effets pour voir s'ils n'étaient pas habités. Il n'y a rien, et cela m'a fait rudement plaisir. À chaque instant, on éprouve des démangeaisons, brins de paille ou autre chose, qui s'est introduit sous la chemise, et on est arrivé à avoir la hantise du pouls. Dernièrement, dans la tranchée, comme ces salauds de Boche, par leur canonnade, m'empêchaient de fermer l'œil, je me suis amusé à décocher en vers des épigrammes à quelques copains. Les voici. Au sergent Fourier drouaillé, qui se lamentait un soir sur la perte de ses couvertures. Dans la ville sainte, où Patrocle tomba, Ajax au cœur saignant faisait moins triste hure que dans Manheul un soir, courbé sur son grabat, notre Fourier droyait, pleurant ses couvertures. Au caporal Fourier, dont l'appétit est légendaire. Un certain chef fameux, son service le lit, son ventre rebondit au plat succulent rêve, et son fier appétit le fait rouler sans trêve dans la cave où l'on bouffe, à la cave où l'on chie. À André Houdin, dont la barbe opulente redoute l'invasion des poux, le poil rare au sommet submergea le menton, et ce bouc que lustra plus d'une main câline est maintenant voué par les forces divines aux légions de poux qui le ravageront. À l'adjudant de barge qui a un bon avaloir. La descente est rapide et le tournant fameux. Ceci ne vise point quelque pente notoire où main coureur côté se fracasse la poire, mais le gosier salé de notre cher juteux. À la même, mardi 2 février 1915, soir. Il a fait aujourd'hui une journée délicieuse, et plus que jamais j'ai pensé à toi, à nos promenades, à nos soirées tranquilles, à nos causeries. Je te revoyais bien sage dans ton fauteuil, silencieuse, avec ta broderie dans les mains, gros lino sur tes genoux, pendant que je griffonnais et que je sentais de temps à autre ton regard chaud de bonne tendresse errer sur mes yeux et sur mon papier. Bon petit conseiller, sage écouteuse, sagace critique de ce que j'ai écrit, comme je t'aime. Plus tard, nous recommencerons notre douce existence de vieux époux déjà et d'amoureux fervents encore et toujours. Si je dois passer à la postérité un jour, je veux, ma chérie, que tu sois avec moi et que nos deux noms soient unis dans la gloire comme nos deux cœurs l'auront été dans la vie. Souvent, quand je suis seul, je regarde les chères photos que j'ai apportées de là-bas. Je les aime, mais je n'en ai pas besoin pour te voir. Ton image est vivante dans mon cerveau. Je te revois toutes dans tes attitudes familières, mon cher trésor, au cœur si pur et si bon. Tu es toute ma vie, et je veux vivre pour te revoir et pour t'aimer comme tu le mérites. Toi, la bénie, la seule élue entre toutes les femmes. Je ne t'ai pas rendue encore assez heureuse, je ne t'ai pas conquis encore tout ce que je veux que tu aies. Tu as été la si fidèle et si chère compagne des jours mauvais, des jours de lutte, des jours de peine, qu'il faut que tu goûtes toutes les revanches, et tu les auras, ma Delphine adorée. Je sens bien tout ton amour dans tes lettres, je sens que je suis un demi-dieu pour toi, mais tu n'es pas moins cher pour moi, et il n'est pas une parcelle de tes lettres que je voudrais égarer. Tout ce qui me vient de toi, mes précieux. Comme ils m'ont semblé délicieux, ces bonbons que tu as faits pour moi. Quand je dois jeter au vent un vêtement usé qui m'est venu de toi, j'en ai comme un serrement de cœur. Et peut-être n'est-ce pas si ridicule. Les choses sur lesquelles s'est posée notre sollicitude conservent quelque chose du fluide généreux dont elles ont été comme imprégnées et qui lie, par des liens invisibles mais puissants, les cœurs sensibles, unis malgré la distance et le temps. Je ne voudrais pas jeter au vent une enveloppe où ta main s'est posée, et comme je ne peux pas les conserver, je les brûle en holocauste au dieu de la guerre et en pensant à ma bien-aimée. Pourtant, ne maudissons pas trop cette guerre qui nous a permis de mesurer la profondeur de notre amour et la puissance des liens qui nous unissent. C'est un renouveau qui se prépare, et peut-être fallait-il cela pour goûter jusqu'à la souffrance les voluptés morales de notre passion. À Marcel Martinet, mercredi 3 février. J'ai remis jusqu'aujourd'hui pour t'écrire, et pourtant voici 3 jours que nous sommes au cantonnement, dit de repos. Mais les besognes les plus fastidieuses et les plus emmerdantes se succèdent avec une telle rapidité que j'ai à peine eu le temps, tous ces jours-ci, d'envoyer un mot à Delphine. Puisqu'elle vous a écrit, je n'ai rien à vous apprendre sur son voyage. Là-bas, c'est le froid et la neige, et la chère petite se lamente sur ma triste situation. Il est vrai que nous avons eu des jours où la gelée pinçait dur, où le nez suintait, les yeux pleuraient et les jambes s'engourdissaient. C'était durant le jour, empilé dans nos abris, car de nuit, malgré les balles qui sifflent ou claquent, suivant qu'elles ricochent ou qu'elles suivent leur droit chemin, on bat la semelle au-dessus du parapet avec une insouciance et un fatalisme parfait, et l'on se réchauffe facilement. Ce beau froid n'a pas duré. Maintenant, c'est le dégel et la boue, mais nous y sommes habitués. Quelle belle nuit il a fait ces jours derniers! D'éclairs de lune féeriques qui illuminaient la plaine grise et blanche. Les coteaux voisins, d'où l'artillerie ennemie nous bombarde, souvent se détachaient sous un ciel adorablement pur, et le sifflement des balles plus métalliques et plus secs avait quelque chose de la plainte de douleur ou du cri de colère. Plusieurs fois de suite, j'ai commandé des corvées, le fusil dans le dos, le cou engoncé dans le cache-nez, une trique à la main, en avant de mes 60 poilus, portant leurs fascines ou leurs gabions. J'avais l'air d'un pasteur menant un troupeau à on ne sait quel pâturage fantastique perdu très loin dans le mystère. En avant, à quelques centaines de mètres, les camarades veillaient. Par moments, les mitrailleuses fauchaient un pan de silence et un rectangle de terrain, et nous continuions d'avancer sous la lune du même pas égal et lent. Et quelquefois, un porteur glissait et s'étalait, on s'arrêtait en silence pour le relever, vérifier ses coudes et ses genoux, lui demander si le postérieur n'était pas endommagé, et l'on repartait. Des campagnols et des mulots par légions sortent de terre, glissant sur le sol, rapides comme des serpents, et faisant entendre leurs petits cris de rappel, analogues à une plainte d'oiseaux blessés. Une compagnie de perdreaux se rallie de temps à autre, et des hordes de chouettes et de chats-huants passent dans le ciel, légères et silencieuses, aussitôt aperçues qu'évanouies. C'est le contraire que je veux dire, aussitôt évanoui qu'aperçu. Une autre faune commence à pulluler un peu partout, dans la paille des granges, dans le foin des abris, dans les flanelles des poilus et dans leur système pileux aussi. C'est la sainte vermine des guerres qui a fait la gloire de Saint-Labre et qui fait l'emmerdement de beaucoup. Il en est peu parmi nous qui ne se soit, à un moment ou à un autre, découvert au moins un de ces locataires encombrants. Aussi appelons-nous de tous nos vœux le jour où l'on pourra se débarbouiller tous les jours, changer de linge un peu plus souvent et prendre quelques bains. Ce matin, depuis 5 jours que je n'avais pu le faire, j'ai réussi tout de même à me débarbouiller un peu minutieusement. J'en ai profité pour faire une visite en règle de tous les replis de mes effets. J'ai eu la joie de constater que je n'avais rien encore. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien m'attendre à écraser quelques poux au carrefour de 2 poils. Nous mangeons bien, heureusement, et c'est grâce à cette suralimentation que nous arrivons pour la plupart à rester solides au poste. Mais la guerre d'usure est, aussi bien pour nous que pour les Boches, une guerre d'usure, et nous aurons sans doute plus tard à payer en douleur de toutes sortes notre vaillance un peu artificielle et forcée d'aujourd'hui. Depuis longtemps, des bruits ont couru au sujet d'un repos qu'on nous accorderait. Mais je crois qu'on nous laissera ici pour la campagne d'hiver, et que ceux qui resteront seront seuls à bénéficier du repos problématique dont nous jouirons peut-être au printemps. J'étais, te l'ai-je dit, proposé une deuxième fois pour le grade de sous-lieutenant. Notre vieux Mercereau, qui connaît tout le monde et qui opère comme brancardier dans ma région, m'a recommandé chaudement au fils de mon colonel, le jeune F, Jean Destieux, pour qu'il fasse hâter ma promotion ou qu'il me trouve dans son entourage un emploi qui me permettrait, quelque temps du moins, de me reposer. Jusqu'ici, ça n'a pas donné grand-chose, et je ne pense pas que cela ait quelque effet. Déjà, ce brave Hénic avait écrit à mon sujet à 2 généraux de ses amis qui lui avaient formellement promis de me faire nommer, et rien n'est venu. On ne sait pas comment cela marche, on ne sait rien de rien, et pourtant, les jours passent. L'Italie et la Roumanie entreront-elles dans la danse, et leur intervention hâtera-t-elle de beaucoup la solution que nous espérons? Nous voulons y croire. Pour l'heure, mon cher vieux, je n'ai pas l'esprit à philosopher. Il y a des minutes où le désir d'écrire me démange, et puis ça passe et ça revient. Mais quand j'en aurai le temps, je suis fatigué. Ah merde, il me tarde de m'asseoir à ma table devant mes livres, de m'allonger sur mon divan, d'embrasser ma femme et d'admirer Toto dans ses poses harmonieuses. Fais-lui mes mamours à ce cochon d'enfant. À Delphine, vendredi 5 février 1915. Dès notre arrivée, le colonel m'a fait appeler. Son fils lui a écrit à mon sujet, très chaleureusement, il faut croire, car notre entrevue a été des plus cordiales, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui en tout et pour tout. Il n'a rien précisé, mais sa poignée de main a été vigoureuse, et j'ai senti qu'il avait pour moi une estime qui n'était pas de commande, mais réelle. Il était 9h30 quand j'ai enfin pu souper. Là, j'ai été mis au courant d'une aventure arrivée à nos cuisiniers et qui m'a fait bien rigoler. En quittant le cantonnement de repos pour venir au village des tranchées, ils étaient un peu lancés et le voyage ne les a pas calmés. C'est pourquoi, leur cuisine en train est confiée à un aide, ils ont décidé de concert et sans prévenir personne de faire une patrouille. Il faut te dire qu'il y a dans notre secteur un capitaine du génie, rouquin à tête carrée, qui a tout l'air d'un boche. À 2 ou 3 reprises, ils ont aperçu sa lanterne électrique à la main, apparaissant et disparaissant comme une ombre, et ils étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un espion. Leur premier but était donc de le pincer et de tirer au clair son identité. Les voilà donc partis à 4, dont l'un, qu'on appelle le Bagnard, un nommé Grivel de la 4e section, sans fusil mais avec son couteau de cuisine pour seule arme. N'ayant rien trouvé de suspect aux alentours du pays, ils ont poussé plus loin dans l'intention, ont-ils dit, de faire un boche aux pattes et de l'amener pieds et poings liés au lieutenant. Ils se sont avancés bravement, très loin, ont reconnu des tranchées boches évacuées et, après avoir fait le coup de feu avec les patrouilles et les sentinelles ennemies, sont revenus, très calmes cette fois, entièrement dégrisés par le froid et par le sifflement des balles. Mais, en refranchissant nos lignes, ils sont tombés sur le capitaine de la 1ère compagnie qui les a interrogés sur leur présence en cet endroit. Ils ont carrément raconté qu'ils voulaient chipper un boche pour l'offrir au lieutenant, et le capitaine les a félicités de leur intention, de leur courage et des renseignements qu'ils lui apportaient, mais les priant une autre fois de prévenir pour que nous autres au moins ne leur tirions pas dessus. Et voilà comment on se renseigne sur les boches. J'aurais voulu que tu vois la gueule du bagnard qui louche affreusement, racontant son équipée à l'adjudant, lequel n'a pas voulu les punir en raison de leur dévouement à la section, parce qu'en somme c'était plus rigolo qu'autre chose. Finalement, il a condamné Philippe à chanter la chanson du Niaf. à la même, dimanche 7 février 1915. Nous allons momentanément changer de secteur. Nous n'aurons plus en face les mêmes boches. Nous appuyons d'un kilomètre ou deux vers le nord. Cela ne te dit pas grand-chose, sans doute. Nous n'avons aucun renseignement sur l'état des tranchées où nous opérerons. Il paraît qu'elles sont moins boueuses et moins aquatiques que celles que nous occupons maintenant. C'est un peu gênant de quitter ainsi un secteur auquel on était bien habitué et dont on connaissait toutes les mottes de terre, tous les trous d'obus et les bons coins et les mauvais. Il faudra se réhabituer au nouveau terrain, tout reconnaître, et ce n'est pas commode quand on va là de nuit, et par quelle nuit, et l'on ne voit pas son doigt devant l'œil. Heureusement que nous aurons des guides pour nous conduire au début. En attendant, nous allons passer 3 ou 4 jours bien tranquilles. Nous avons eu la pluie pendant presque toute l'étape, une boue épaisse détrempait la route, et cela vous éclaboussait jusqu'aux yeux. Pour comble de bonheur, pas de paille dans la grange et une lucarne par où s'engouffrait un vent humide et froid. Mais mon brave Philippe et ses copains avaient dégoté une grange avec du foin en abondance. Ils m'ont offert une place parmi eux. On a fait un lit à la Trimard et, chaudement recouvert, j'ai dormi le plus confortablement du monde. J'ai reçu ces jours derniers une lettre de Descaves. Pour lui faire plaisir, je lui ai demandé des chaussettes et une pipe et il m'envoie tout ça avec joie. Il veut même m'envoyer autre chose encore, je n'ai qu'à demander. À Madame Louis Chicon, dimanche 7 février 1915. Ma bonne Jo, j'ai dit à Delphine, et elle vous l'a répété sans doute, pourquoi je ne vous avais pas écrit après cet horrible malheur. Je sais trop bien combien chaque lettre qu'on reçoit vous reperce le cœur et remet à nu les vieilles plaies. Mais ne croyez pas qu'il y ait eu à ce moment-là chez moi une indifférence sacrilège. Depuis que je le connaissais, j'aimais Chicon comme un frère, et peut-être plus qu'un frère, car les amis d'élection vous sont presque toujours plus chers que ceux que Dame Nature vous impose. Longtemps, Delphine a atermoyé avant de m'annoncer la chose. Elle ne voulait pas, la pauvre chère petite, me connaissant bien, me jeter ça sur la tête comme un coup de massue. Malgré tout, je me cramponnais à un espoir, et j'ai senti un affreux serrement de cœur quand elle m'a, enfin, appris cette fin brutale, bête comme un coup de trique du destin sur une échine humaine. Je ne vous cacherai pas, ma bonne Jo, que j'ai pleuré silencieusement plus d'un soir, toutes bougies éteintes, sur la paille qui me servait d'oreiller, en songeant à cette belle amitié cassée si brutalement, à nos soirées si cordiales, à tout, enfin. Certes, depuis le début de la campagne, j'ai appris la mort de pas mal de parents et d'amis. Aucune ne m'a si profondément bouleversé que votre deuil. Je n'ai pas besoin de vous dire, ma chère amie, que vous nous restez tout aussi chers et que tout ce que nous pourrons faire pour adoucir votre malheur, nous le ferons. Quant à Chicon, je ménage à sa mémoire une place dans mon souvenir et il y aura dans mon prochain livre une dédicace qui rappellera son nom aux nombreux confrères et amis qui le connaissaient, l'estimaient et l'aimaient. À Delphine, lundi 8 février 1915. Je suis avec de bons camarades, pleins de bonne humeur et d'entrain, qui m'aiment et me respectent beaucoup. On ne m'appelle plus que le maître, cher maître, ce qui d'ailleurs n'empêche pas le tutoiement amical. « Eh, le maître, tu veux un quart de pif ?» Le pif ou pinard, c'est le vin, pour lequel nous avons tous une affection particulière. Cet après-midi, j'ai fait un brin de toilette, c'est-à-dire que je me suis consciencieusement débarbouillé et que j'ai mis une flanelle propre, un tricot propre, une chemise et un caleçon propre, et me voilà propre sur toute la ligne. Une sérieuse inspection des coutures n'a révélé la présence d'aucun animal particulier, et cela m'a tout de même fait plaisir. Néanmoins, n'oublie pas de m'envoyer, dans ton prochain envoi, de petits sachets de camphre. À la même, mardi soir, 9 février 1915. À l'heure actuelle, c'est fait. Ma nomination comme adjudant de bataillon est signée et je vais prendre demain matin mes nouvelles fonctions. Elle ne me semble pas devoir de prime abord être très pénible ni très absorbante. En premier lieu, elle me dispense de la tranchée, me procure un habit confortable et d'autant plus que le chef de bataillon est un homme des plus prudents. Jusqu'à nouvel ordre, je vais rester ici, où je n'aurai pas grand-chose à faire car le bataillon est divisé et marche une partie d'un côté, une partie de l'autre. une vague comptabilité administrative, quelques pièces à collationner, des ordres à rédiger, des cantonnements à répartir constituent ma besogne habituelle. Maintenant, elle se bornera à colliger des rapports et à transmettre les pièces. C'est d'ailleurs parce que c'est un emploi de tout repos que le colonel m'a nommé là. Il s'est montré aujourd'hui encore, je l'ai vu deux fois, on ne peut plus aimable et cordial. De Moreau Giafferi aussi. Nous allons probablement rester ensemble avec plusieurs autres notabilités du barreau, des arts ou des lettres non moins intéressantes. D'un autre côté, le beau temps a l'air de vouloir revenir. Il fait aujourd'hui un soleil éclatant et je me suis promené toute l'après-midi dans la rue ensoleillée avec De Moreau Giafferi, le capitaine d'artillerie Mercier et un de ses lieutenants. La conversation a été des plus intéressantes et des plus rassurantes pour nous. Tout ce que je puis t'en dire, c'est que nous sommes à l'heure actuelle très supérieurs comme artillerie à l'artillerie Boche. Demain soir, les camarades vont partir pour la tranchée et moi, je resterai. Cela me fait tout de même quelque chose, après 5 mois de campagne, de les laisser. Nous avons passé ensemble tant de mauvaises heures et aussi quelques bons moments, mais je reverrai les camarades très régulièrement puisque je reste au bataillon et qu'ils reviendront ici tous les 4 jours. Tranquillise-toi de nouveau au sujet de mon couchage, je saurai bien d'ici 2 ou 3 jours dénicher une chambre avec un lit. En attendant, j'aurai à ma disposition le bureau du chef de bataillon, le capitaine Rouzade, et j'espère pouvoir enfin écrire mes lettres avec une plume et de l'encre, et non plus avec un crayon. À la même, mercredi soir, 10 février 1915. Me voici quasi installé dans mes nouvelles fonctions. Je dis « quasi » car je suis si peu au courant de ma besogne quotidienne, je ne suis encore ni armé, ni équipé, ni rhabillé. Je t'ai dit que De Moreau Giafferi était ici comme secrétaire au bureau du colonel. Il se montre avec moi aussi cordial et aimable que possible. Hier soir, nous avons longuement bavardé dans la rue. Ce matin, jeudi, je vais aller voir le colonel pour lui porter 2 goupilles à Margot et la revanche du corbeau. Je serai fixé sur le point de savoir si je le suivrai ou si je resterai ici à m'occuper des soins que réclame ma fonction. À la même, vendredi soir, 12 février 1915. Donc, je suis allé hier à Verdun, j'ai retrouvé, après la longue étape, 20 kilomètres qui me séparait du dépôt, les anciens camarades, ou plutôt une partie des anciens camarades de la 29e qui m'ont accueilli avec leur gentillesse coutumière, m'ont fait manger avec eux et trouvé pour la nuit un lit où j'ai fort bien dormi. Nous avons même pu boire après dîner 2 ou 3 bouteilles de champagne, au cours de laquelle absorption je les ai mis au courant un peu de la vie de tranchée qu'ils ont eu l'avantage d'ignorer pendant près de 7 mois. Bientôt néanmoins ils partiront, car on vient de reformer là-bas un nouveau bataillon de marche dans lequel ils ont été incorporés. Sans doute ils verront les boucheries du printemps sans y être préparés, sans être aguerris comme nous, vieux briscards qui avons tout vu, marmites, rafales de mitrailleuses, bombes d'aéro et fléchettes d'acier, balles, typhoïdes, époux, et qui néanmoins avons tiré de ses guépiers notre sac d'os et de bidoches. À la même, dimanche 14 février 1915. Hier, il faisait un temps à ne pas mettre un boche dehors, pluie et vent. Aujourd'hui, il ne pleut plus et le soleil se montre par moments, mais le vent reste violent et la température plus que modérée. Je pensais hier, en voyant la pluie fouetter mes carreaux de papier, aux pauvres poilus qui étaient dans la tranchée, et je me trouvais heureux d'être dispensé d'y retourner. À Verdun, je me suis commandé chez le maître tailleur une tenue en nouveau drap que je n'aurai pas avant 15 jours ou 1 mois peut-être. D'ici là, pour avoir un peu d'allure et en imposer aux poilus selon le vœu de mon chef de bataillon qui désire me voir plastronner un peu, j'ai fait mettre à ma tunique les écussons dorés et ajouter à ma capote avec les galons réglementaires un col rabattu et de nombreuses poches. Avec un képi neuf, cela me donne fort bon air et je crois que tu me trouverais à ton goût si tu pouvais me voir. Bonne petite, si tu savais comme je pense à toi. À toute heure, ma pensée s'en va errer vers une de nos heures passées, mais c'est surtout le soir, quand je me retrouve seul dans ma chambre, que cette hantise devient profonde. Il y a aussi nos doux attendrissements sous la lampe, en lisant des vers, de beaux vers bien remplis et solides, ceux de ce pauvre Debel, les strophes d'airain de Baudelaire et quelques élégies de sa main. Ma toute belle, comme il me sera doux de recommencer cette vie de douceur, de calme et de tendresse passionnée. Nous resterons chez nous plus que jamais. D'ailleurs, il en est tant déjà de nos meilleurs amis dont le nid est détruit et dispersé. À la même, lundi 15 février. Il fait aujourd'hui un temps indécis de printemps, un soleil de jaunisse et pas très chaud. Le bulletin des écrivains de février signalait la mort de Maurice Collin, tué en prenant un drapeau et cité à l'ordre du jour. J'ai demandé à d'Ivoire de me laisser écrire quelques mots sur lui, ce sera quelques fleurs jetées sur sa tombe, puisse-t-elle adoucir un peu la douleur des siens. Est-ce que son frère Sadi n'a pas été tué, lui aussi? Tâche de m'avoir quelques renseignements, date de naissance par exemple, nombre d'enfants, etc. À la même, jeudi 18 février 1915. Depuis hier, nous vivons dans le plus magnifique boucan qu'on ait jamais rêvé. Dès 2 heures de l'après-midi, nos canons ont commencé la danse et ça a été sans discontinuer sur les lignes Boches une pluie d'obus terrifiante. De derrière le village, légèrement dissimulé, nous pouvions voir en partie la fumée produite par les éclatements perpétuels de nos 75, de nos 90 et de nos 120. Une fumée noire montait des lignes allemandes bouleversées. Dans ce désarroi, affolé, à peine répondait-il, tirant un peu au petit bonheur n'importe où, sans grand dommage, alors que nous, nous avions repris tout ce que nous avons voulu. J'ai, comme je te disais hier, dîné le soir avec les officiers d'artillerie. Ils étaient radieux, leurs artilleurs aussi. On ne pouvait plus les retenir. Quelle avalanche d'acier a roulé sur les tranchées Boches! Sitôt le repas terminé, après une causerie fort intéressante et pleine de charme et d'esprit, on s'est séparés. Eux retournaient à leur batterie et moi à mon lit. Si j'avais été moins fatigué, j'aurais fait comme Demorovia Ferry, je les aurais suivis. Que ne suis-je artilleur? Et quelle fraternité aussi dans cette arme! Jamais des officiers d'infanterie ne se sont montrés avec moi aussi cordialement amis. Pourtant, ce sont tous des gens sortant de polytechnique ou de centrale, c'est-à-dire dans une situation plus élevée que les officiers d'infanterie. Même leurs hommes, avec qui ils sont extrêmement familiers, leur sont dévoués jusqu'à la mort. On plaisante, on rit, on obéit pourtant, et on marche. Je n'ai pas encore vu ça chez nous. Tu seras peut-être étonné, le docteur m'a dit que la vie de tranchée me valait mieux que celle que je menais maintenant. Il ne me reste plus qu'à souhaiter qu'on m'y renvoie. Tu dois être contente, ton rêve est accompli, et je suis dans un poste tranquille, au front tout de même, puisque je me trouve au milieu de la canonnade, et pourtant presque en sûreté. Va, ne t'inquiète pas, ma chérie. La destinée est la destinée, et nul n'y échappe quand l'heure a sonné. J'ai déjà passé à travers trop de balles et éclats de marmite pour ne pas espérer conserver jusqu'au bout cette chance, même si je dois conduire mes poilus à l'assaut d'une tranchée Boche. Il est vrai que si nos artilleurs font partout le même boulot qu'hier et aujourd'hui, notre besogne sera bien réduite et notre tâche bien facile. J'ai bon espoir, je crois que nos canons ont de quoi consommer, et alors il n'y a plus pour messieurs les Boches qu'à prendre leurs jambes à leur cou et regagner la forêt noire. Ils ne le feront pas, car ce sont de rudes soldats que ces brigands-là. Leur endurance égale aussi leur férocité. À la même, dimanche soir, 21 février 1915. J'ai déjà bien cherché à me faire photographier, mais ce n'est pas commode ici, où il est interdit d'avoir un appareil. Je crois cependant que j'y arriverai, soit au cours d'un voyage à Verdun, soit que je dégote un propriétaire d'appareil photographique. Inutile de te dire que mon premier soin sera de t'envoyer mon portrait. Je crois, malgré ces 7 mois de campagne et de vie plutôt dure, n'avoir pas beaucoup changé. Au début, j'avais laissé pousser toute ma barbe, et j'avais sous le menton un petit bouc très étriqué et sur les joues des baliveaux bien espacés. Ce n'était ni beau ni propre, aussi ai-je fait tout sauter. Pour la modique somme de 25 francs, prix très raisonnable, étant donné les temps et les circonstances, un sapeur d'ici m'a confectionné une solide et superbe cantine de format réglementaire dans laquelle je loge tout mon linge et mes fournitures diverses. J'ai droit d'ailleurs à une cantine comme adjudant, et ce n'est plus une gracieuseté qu'on me fait en me gardant pour mon petit bagage la place à laquelle j'ai droit sur la voiture du bataillon. J'ai fait goûter aujourd'hui au père Laguerre, c'est le nom du vieux brave homme chez qui je suis hébergé, un peu du contenu du flacon qui était dans ton colis. Il l'a trouvé fort à son goût et cela lui a fait plaisir. Nous liquiderons ça à nous deux après-midi, par petites doses, en parlant du pays. Mes hôtes sont deux braves vieux qui ont le cœur sur la main et chez qui les soldats sont absolument en pays conquis. Je les défends, du mieux que je peux, contre certains qui sont par moments tentés d'aller un peu loin et d'oublier qu'ils ne sont pas chez eux. Lui est un vieux bougre, au crâne pelé, au visage couturé de cicatrices et de rides, dont les yeux apparaissent encore derrière les paupières qui tombent comme des portes qui ferment mal. Il a un peu d'asthme et ne dort guère. Il parle peu, surtout avec les gens qu'il ne connaît pas. Je commence à entrer dans ses bonnes grâces et à conquérir sa sympathie. Nous arrivons à blaguer autour d'un vieux rhum devant un bout de feu, car il n'y a pas de poêle ici, mais simplement le foyer avec les chenets, et il ne se lève plus pour foutre le camp quand je viens m'asseoir autour de ce foyer. Elle est petite, vive, enjouée, causante, aimable, bien ridée aussi, mais la figure encore fraîche. Elle a dû être jolie sous l'Empire. C'est la meilleure femme du monde, et elle est pleine d'attention et de prévenance pour moi. Ce brave Philippe lui a tellement bourré le crâne. Les œufs de ses poules sont pour moi, et mon linge est lavé par elle. Nous faisons souvent la causette. Cette guerre les a ruinés, mais ça ne fait rien, elle reste serviable et bonne. Ils n'ont pas d'enfants, et doivent, bien qu'économes, assez peu se soucier de laisser des restes à des neveux ou à des cousins. La maison est vieille et branlante comme eux. On a remis à ma fenêtre des carreaux en papier, et je commence à bien dormir dans mon lit. Voilà, mon cher petit, quelques détails sur des gens qui me touchent. J'espère qu'ils vous intéresseront. Au reste, je vous écrirai demain une autre lettre où je vous redirai que vous êtes ma toute belle et ma toute chérie. À la même, mardi 23 février 1915. Tous les soirs, nous nous ménageons pour après-dîner un bon brasier, et sitôt que nous avons mangé, nous formons le cercle tout autour pour prendre le café et fumer la pipe. Nous restons ainsi jusqu'à 9h30-10h. Ensuite, chacun regagne son lit ou sa paille. Mais ici, tout le monde a son lit, plus ou moins bon d'ailleurs, quelques-uns n'étant que de simples paillasses ou des peaux de mouton. On ne voit de poils que chez les riches. On fait le feu dans le foyer, et ça chauffe naturellement très mal, d'autant qu'on n'a pas la quantité de bois suffisante pour allumer de grands brasiers lumineux et gais. Par exemple, les gens ont tous de beaux vieux meubles, solides et joliment sculptés. Beaucoup ont été démolis et ont servi de bois de chauffage, ce qui m'était bien pénible à voir. J'ai vu entre autres une superbe armoire à trois portes, magnifiquement sculptée, et qui aurait fait une admirable bibliothèque, disparaître peu à peu, morceau par morceau, chaque jour. Les camarades de la deuxième sont revenus, hier, de la tranchée. Ils ne se plaignent pas trop et attendent avant peu un coup de chien, mais nul ne saurait préciser la date à laquelle on attaquera, et à ce propos, il est rigolo d'entendre les affirmations des poilus, tous mieux renseignés les uns que les autres, qui se font des confidences et se passent des tuyaux fabuleux. Troupes de réserves en quantité immense, canons innombrables, munitions inépuisables, effets foudroyants du 75 et des autres. Bref, cela prouve au moins qu'ils ont confiance. À la même, mercredi 24 février 1915. Comme je me trouvais mieux portant hier, j'ai voulu faire dans l'après-midi une petite promenade pour me remettre tout à fait, et j'ai accompagné mes camarades de table, les vaguemestres, dans leur course quotidienne. Il faisait très mauvais, bourrasque de pluie et de neige, mais on sentait malgré cela que nous allions vers le printemps. Le soleil, de temps en temps, avait l'air de mettre le nez entre deux nuages pour sourire un peu à cette sacrée terre boueuse et détrempée sur laquelle l'ami Guillaume, vaguemestre du bataillon, s'acharnait à chercher des pissenlits pour la salade du soir. Nous avons pris un café en arrivant à R et nous sommes revenus à pied pour nous réchauffer. Les officiers d'artillerie étaient dans l'intervalle venus me demander, et dès mon arrivée, Demorodja Ferry est venu me chercher pour aller avec eux prendre le thé. Ils ont voulu absolument nous retenir à dîner. Comme la table est bonne, nous nous sommes laissés faire et nous avons passé une excellente soirée à causer et à plaisanter. C'était, comme tu penses, plus ou moins salé. Comme nous étions là, le colonel est arrivé, rentrant de Pinteville. On lui a fait la place, offert le jus qu'il a accepté très franchement et très gentiment, et la séance a continué. Quel homme charmant, tout simple, plein de bonne humeur, d'entrain et de courage. Depuis le début de la campagne, il a été blessé 3 fois. Cela ne l'empêche pas de rester le même, serviable, simple et bon, tout en gardant grand air. Le gouverneur a donné les ordres les plus sévères pour que ni officiers ni soldats ne puissent recevoir leurs femmes. Colette était venue voir son mari, Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du Matin, officier d'ordonnance du gouverneur, et a été expulsée. Il s'en est fallu de peu qu'elle ne fût reconduite à la gare entre 2 gendarmes. Ces vieux, aux couilles ramollies, ne veulent rien entendre ni rien savoir. Desmoreaux est furieux lui aussi, cette pudibonderie l'exaspère. Il me parlait hier de ses dégoûts depuis qu'il est dans le métier en nous promenant au clair de lune voilée, sur la route de F parmi le silence diabolique d'une nuit louche comme les classiques nuits de sabbat. C'était très impressionnant, des chouettes riaient, des rideaux luisaient entre les sillons, il n'y manquait que les sorcières sur leurs manches à balais. À la même, vendredi 26 février 1915. Hier, en rentrant de V, j'ai trouvé ta délicieuse lettre qui m'attendait comme un accueil d'amour et je m'y suis baigné l'esprit et le cœur délicieusement, voluptueusement. J'étais parti le matin à 5 heures après avoir très peu dormi. Je suis allé prendre la voiture du vague-mestre de la division, mais il faisait si mauvais et si froid que nous avons presque fait toute la route à pied. Il avait neigé dans la nuit, les chemins glissaient et le vent nous fouettait la face en nous envoyant sur les joues une fine poussière blanche qui nous glaçait. J'ai pu me faire photographier et d'ici 10 jours, je pourrai vous envoyer un portrait de moi. J'ai insisté auprès du photographe pour qu'il le retouche le moins possible, mais il n'a pas l'air très intelligent et je crains bien que je n'obtienne de lui qu'une gueule banale comme celle de tous les troupiers bien rasés, bien bichonnés, aux poils bien lustrés. Pourtant, j'ai pris ma pose coutumière, les mains dans les poches, et j'ai gardé mon képi contre toutes les règles de la photographie auxquelles il s'était soumis. Sans doute aurait-il préféré me voir appuyé au dossier d'un fauteuil, dans la pose avantageuse et conquérante chère à tous nos poilus. Il était très épaté. Par la même occasion, j'ai pu rapporter ma nouvelle tenue bleu ciel, qui me va très bien et dans laquelle je me sens joliment à mon aise. L'après-midi, j'ai eu la veine de tomber sur un camarade, adjudant mitrailleur, qui revenait avec une voiture et j'en ai profité. Il faisait un temps superbe, le soleil s'était levé, la neige avait fondu, les forêts s'enluminaient des derniers cuivres du couchant, c'était tout à fait très beau. Nous avons fait en route quelques petites stations, car il connaissait presque tout le monde, et bien que l'alcool soit interdit aux troupes, nous avons dû laper plus d'un petit verre. Je me trouvais en rentrant légèrement ému. Pour comble de bonheur, les camarades de la popote avaient dégoté une bouteille de champagne qu'on a sablée immédiatement. Ensuite sont venues diverses drogues fermentées qui m'ont mis dans un état tout à fait propice au bienfaisant sommeil. À la même, samedi 27 février 1915. Comme j'étais en train de classer des papiers en attendant la soupe, Desmoreaux Diaferi est venu m'appeler en me disant qu'on n'attendait plus que moi pour se mettre à table. C'était ce brave capitaine Mercier qui m'appelait, encore pour partager son repas avec quelques invités de choix. Les voici. D'abord mon colonel, monsieur Détieux, toujours charmant et plein d'entrain, et puis Desmoreaux Diaferi, puis Renaud, le chanteur de l'opéra, et Bousquet, le revuiste parisien bien connu, tu sais, Rip et Bousquet, et les officiers d'artillerie, et moi. La conversation a été un perpétuel feu d'artifice, de l'esprit et du plus fin. C'était charmant, d'autant que le menu était fort soigné. Le capitaine Mercier, qui lui-même est artiste, sculpteur et écrivain, avait reçu dans la journée un colis de Madame Mercier, et nous avons absorbé, avec des desserts exquis, quantité de petits plats non moins délicieux. Le vin ordinaire se doublait de 2 bouteilles de vieux beaune, et le cognac et la bénédictine se mariaient avec le café pour un mélange qui valait mieux que le fameux mariage de la carpe et du lapin. Nous avons ainsi passé la soirée à dire des blagues et à conter des histoires. Vers 11 heures, nous nous sommes levés de table. Il faisait un clair de lune magnifique et nous avons accompagné nos invités qui se rendaient l'un à F, l'autre à H pour les besoins de leur service. Renaud et Bousquet, après s'être battus comme moi et avoir quelque temps vécu la vie de tranchée, sont passés sergents téléphonistes il y a déjà 4 mois, avant l'hiver, et n'ont pas eu à supporter les rigueurs de la tranchée par la neige et par la pluie. Il n'en reste pas moins vrai que Renaud vit continuellement sous les obus, le village où il cantonne étant bombardé chaque jour. Bousquet a plus de chance et ça l'ennuie un peu. Par le clair de lune, nous avons donc franchi les lignes de sentinelle et reconduit nos invités. Mais le colonel, ayant mis dans sa poche, sans s'en apercevoir, son briquet mal éteint, a brûlé sa vareuse, sa chemise, son pantalon et a été lui-même assez gravement atteint à l'aine. Il a fallu l'éteindre et il devait souffrir beaucoup. Mais comme il est très endurant, il s'est fait simplement panser et est allé se coucher. Nous l'avons accompagné jusqu'à sa cave et il m'a serré la main vigoureusement, d'une poigne solide et que je sentais sympathique, en me disant « Ah, mon petit Pergot, je n'ai pas encore fait grand-chose pour vous, mais j'espère bien d'ici peu que cela se manifestera d'une façon plus sensible. » Le gouverneur doit être un vieux ramolli qui ne veut pas de femme à Verdun et qui fait sacré X, qui a juré de lui faire une blague, de lui envoyer dans une lettre sur du buvard le produit desséché de sa virilité.